Chapitre 23. Basé à la périphérie de Reims, Cardiotech SA s'étalait comme un long vaisseau de verre à la structure métallique en forme d'alvéole. Lucie ne se laissa pas distraire par le caractère austère et futuriste du bâtiment, ni par les différents dispositifs de sécurité qu'il fallait franchir pour atteindre l'étage administratif de l'entreprise. Le directeur venait d'être informé de la venue matinale d'un officier de police et patientait dans son bureau. En montant, Lucie contempla son reflet dans le miroir de l'ascenseur et réajusta les mèches rebelles qui tombaient en désordre sur son blouson. 2 heures et demie de route dans les bottes après une nuit blanche. Elle détestait quand ses yeux en manque de sommeil gonflaient de la sorte, quand la fatigue et le stress lui prêtaient des propos ou des comportements extrêmes. Elle en voulait à Charcot. Même si cette affaire le mettait sous pression, comment avait-il pu avoir des paroles aussi dures? La secrétaire l'abandonna devant la porte du bureau d'Olivier Vandenbusch. Le directeur lui proposa de s'asseoir et ne s'embarrassa pas des formalités d'usage. « Désolé, mais j'ai peu de temps. D'ici une demi-heure, nous avons un comité de direction. En quoi puis-je vous aider ?» Lucie l'avait imaginé en vieux professeur de médecine, mais il était un homme d'à peine 40 ans, à la mise impeccable, le genre businessman entre deux avions. Derrière lui, sur une étagère, un slogan barrait une plaquette publicitaire. « De la qualité de nos produits dépend la vie de nos clients. » Tu m'étonnes. Une fois installée, Lucie se présenta et poussa devant elle plusieurs agrandissements du pacemaker carbonisé. « Il s'agit bien de l'un de vos appareils ?» Le directeur lorgna les clichés avec la plus grande attention. Son visage de jeune premier se fit plus grave. « On dirait en effet. D'après la forme, ce serait l'avant-dernier modèle, celui commercialisé avant février 2016. Que s'est-il passé ?» Il a grillé mardi dans le corps d'un homme venu mourir devant le QG de la police judiciaire parisienne. Il est décédé sur le coup, et le médecin légiste a sorti de sa poitrine ce que vous voyez là, un appareil issu de votre usine. Et avant que vous ne l'évoquiez vous-même, ce n'était malheureusement pas un hasard ou une panne quelconque, monsieur Vandenbusch. La victime se savait menacée et était bien consciente qu'à 17h02 exactement, une bombe pouvait se déclencher en elle.
C'est impossible.
Ça l'est apparemment, et je suis ici pour comprendre.
Vandenbusch perdit de sa prestance. Son visage s'affaissa comme un pâté de sable sous l'assaut d'une vague. Il se pencha pour s'assurer de la bonne fermeture de la porte derrière Lucie et garda le silence.
« Excusez-moi, mais c'est terrible. Vous dites le QG de la police parisienne. Ça a un lien quelconque avec ce qu'il raconte à la radio? L'homme et la femme enfermés dans des tubes? Ils ont aussi parlé d'un homme qui serait mort devant les bâtiments de la police.
C'est lui. »
Le directeur accusa le coup.
« Je suis désolé. » On ne s'attend pas à ce genre de nouvelles, surtout que nos pacemakers n'ont jamais rencontré de problème aussi grave. Vous l'avez compris, en montant jusqu'ici, la sécurité et la fiabilité de notre matériel sont notre obsession. Un pacemaker doit fonctionner sans aucun problème durant toute la vie de sa batterie, soit environ 7 ans. Sur les centaines de milliers de produits sortis des usines, seuls 32 ont posé problème et...
Il faudra rajouter celui-ci à vos statistiques.
Elle lui tendit un cliché. Le directeur considéra les chiffres rescapés de la destruction.
Si vous m'aviez fourni le numéro de série complet, j'aurais pu vous orienter vers le bon médecin du bon hôpital, et vous auriez pu récupérer l'identité du patient par le dossier médical. Mais là, malheureusement, la plupart de nos numéros de série commencent par ces 4 chiffres. Ce sont les suivants qui sont importants.
Vous n'avez aucune donnée sur la victime?
La 50aine?
Monsieur, j'ai quelque chose.
Il travaillait dans l'intelligence artificielle ou un domaine technologique.
Je suis désolé, c'est tout ce qu'on possède avec la photo de son cadavre.
Ça ne m'aide pas. Vous vous doutez qu'on ne connaît pas les métiers ni les visages des porteurs de pacemakers. Nous sortons de notre usine 1500 appareils par jour. Et chaque année, plus de 12 000 pacemakers Cardiotex sont posés sur des patients avec des déficiences cardiaques, rien qu'en France.
12 000 par an. Ça lui paraissait astronomique. Lucie ne savait même pas si le G se rattachait au nom ou au prénom de leur victime. Elle comprit vite qu'elle n'y arriverait pas et qu'il était inutile de demander des listings d'hôpitaux ou de cardiologues. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin.
« Donnez-moi votre avis sur ce qui s'est passé. Comment un pacemaker peut-il devenir une arme ?»«
La plupart des pacemakers que vous trouverez sur le marché sont devenus des objets connectés, comme votre montre qui va vous demander de courir un kilomètre de plus ou un réfrigérateur capable de commander des yaourts à votre place lorsqu'il en manque. » Nos produits communiquent sur une certaine fréquence radio avec une base fixe située chez le patient pour transmettre des informations cryptées et presque en temps réel du patient à un système informatique et donc au cardiologue. Le médecin peut ainsi détecter rapidement les problèmes cardiaques éventuels, comparer à des bases de données de porteurs de nos pacemakers et réagir au plus juste. C'est ce qu'on appelle une médecine ultra-personnalisée. Mais comme la plupart des objets connectés, les pacemakers peuvent être la cible d'attaques de pirates informatiques. Vous avez peut-être entendu parler du problème avec Dick Cheney en 2013.
Lucie secoua la tête, bluffée. Même un pacemaker était connecté au réseau et alimentait cet infini nuage de données appelé Big Data. Existait-il encore un jardin secret que nous ne livrions pas aux bouches insatiables des machines ?
Le vice-président américain a désactivé la fonction sans fil de son pacemaker pendant son mandat, de peur d'une attaque terroriste ou d'un cyberchantage sur son appareil. Ce n'était pas une phobie injustifiée. De nombreuses sociétés d'audit avaient décelé d'innombrables failles et montré qu'on pouvait contrôler un pacemaker à distance, comme augmenter artificiellement le rythme cardiaque d'une personne. En provoquant l'emballement d'un pacemaker, il est facile de faire exploser sa pile au lithium. L'issue pour le patient est fatale.
Il appuya sa main sur d'épais dossiers.
De nombreux dysfonctionnements ont été détectés et résolus au fil des années. Il y en avait des milliers, et ça allait des pacemakers aux pompes à insuline implantées ou aux implants cochléaires qu'on pouvait contrôler à distance. Il n'y a pas longtemps encore, un pirate a pris la main sur une poupée connectée pour enfants. Il pouvait voir l'intérieur de la chambre de la gamine par les yeux du jouet et prononcer des propos obscènes. Il existe encore de nombreux progrès à réaliser, mais en ce qui concerne les objets connectés ultra-sensibles comme des pacemakers, la sécurité est aujourd'hui extrême. Les échanges entre émetteurs et récepteurs sont cryptés, ce qui les rend quasi inattaquables.
Quasi. Comment le pirate s'y est-il pris pour agir sur un pacemaker dans une poitrine ?
L'esprit d'Olivier Vandenbusch se heurtait au choc des révélations. Lucie devinait les conséquences pour son entreprise si l'affaire du pacemaker venait à s'ébruiter. Qui voudrait encore porter un stimulateur Cardiotex sachant que l'engin pouvait exploser dans votre poitrine ? Elle visualisait déjà le slogan. Éclatez-vous bien avec les pacemakers Cardiotex.
Après un silence, il reprit la conversation.
Ça s'est passé en pleine rue, vous dites. Il n'y a pas 36 solutions. L'ordre a forcément été donné en direct. Le hacker devait disposer d'un ordinateur portable ou d'un téléphone relié à une petite antenne pour être sur la bonne fréquence de 175 kHz. Il a très bien pu développer une application exploitant la faille qu'il lui suffisait d'activer lorsque sa victime se trouvait suffisamment proche de lui. L'application a dû se connecter au système interne du pacemaker, déjouer les systèmes de protection et donner des ordres à l'appareil.
Quand vous dites proche de lui,
20, 30 mètres grand maximum. Au-delà, il n'y a plus de signal.
Lucie buvait chacun de ces mots. Ainsi, la bombe n'avait pas été programmée pour exploser d'elle-même. le tueur s'était trouvé dans les parages pour déclencher le système à deux pas du bastion.
N'importe qui peut dénicher la faille dans vos engins? N'importe quel internaute suffisamment brillant?
Non, non, vous vous doutez bien. Même si un petit génie disposait des plans qui sont en lieu sûr, ça ne suffirait pas, car il faut accéder à la couche logicielle présente dans le pacemaker. Tout est crypté, hyper sécurisé. Votre pirate devait avoir accès à l'un de nos appareils afin de l'ouvrir, de l'étudier. Il avait probablement aussi accès à des programmes confidentiels de fabrication.
Comme vos employés.
Je ne vais pas vous mentir, parce que je n'ai rien à cacher. Si vous pensez au personnel qui développe les programmes ou les logiciels, à celui qui assemble, celui qui accède aux fichiers ou aux ingénieurs qui se rendent dans les hôpitaux pour mieux cerner les besoins des médecins, en tout, plus de 300 personnes. Alors, nous pourrions tous être coupables. Bien sûr, ça exigerait une touche de génie et des compétences incroyables sur l'ensemble des process, sachant qu'un soudeur n'est pas un informaticien ou qu'un technicien de laboratoire ne s'y connaît pas forcément en cryptage. Mais ça reste faisable. Cependant, il en revint au dossier sur son bureau. « Je suis vraiment ennuyé. Si ça s'est produit comme vous le décrivez, ils auraient dû voir la faille. » Ils n'ont pas pu passer à côté.
Qui ça, ils ?
Cyberspace, un cabinet de conseil en stratégie numérique et spécialisé dans le domaine médical de pointe. Il y a environ 2 ans et demi, peu de temps après la sortie de ce modèle, nous l'avons mis entre leurs mains. Nous avons payé leur service une fortune pour justement éviter le genre de drame qui vous a amené aujourd'hui. Il se leva, alla fouiller dans une armoire.
Voici leur rapport. Ils ont réalisé des mois de tests, des centaines de scénarios de panne, d'attaques informatiques. Ils ont relevé 27 bugs mineurs sans impact sur la santé des patients. Bugs qui ont été redirigés vers nos équipes informatiques pour correction et intégration dans des versions futures.
Je ne comprends pas qu'une faille capable de détruire notre pacemaker à distance leur ait échappé.
Quelqu'un aurait pu détecter un problème de sécurité chez eux et ne pas le signaler.
Je ne peux incriminer personne, vous vous en doutez. Je dis juste qu'ils ont eu entre les mains tout le matériel nécessaire pour fiabiliser davantage nos produits, des plans aux composants, et que selon toute vraisemblance, le travail n'a pas été fait à 100%.
Et avait-il aussi accès aux identités des porteurs de tel ou tel pacemaker ?
Ils avaient accès à tout. C'est pour cela que nous signons des chartes avec eux et qu'ils sont soumis au secret professionnel le plus strict sur les données traitées. Bref, avec le numéro de série d'un produit, nous offrons la possibilité à tout patient implanté ou qui souhaite se faire implanter d'accéder aux résultats de tests que nous faisons nous-mêmes lors de la fabrication de leur pacemaker. Le client peut même accéder à des photos des étapes clés dans un souci de transparence. Cela signifie que si vous, cliente, utilisez cet accès, même une seule fois, vous êtes tracé dans nos fichiers.
Et on peut donc savoir que je porte ou m'apprête à porter l'un de vos pacemakers.
Exactement. Et Cyberspace était en possession de ces fichiers clients.
Lucie commençait à entrevoir un début de scénario.
Votre rapport, là, il mentionne les identités des experts de chez Cyberspace qui ont travaillé sur votre pacemaker?
Non, désolé, mais vous les retrouverez facilement en contactant la société.
Elle lui tendit une carte de visite.
Mes coordonnées. Vous allez être appelé sous peu par la brigade criminelle pour officialiser tout ça. En attendant, il est impératif que vous ne parliez à personne de notre conversation. Pas même à vos employés. Ne contactez pas Cyberspace. Il est de toute façon dans votre intérêt de ne pas ébruiter cette affaire.
Comptez sur moi.
Lucie lui serra la main. De retour à sa voiture, elle frissonna en imaginant le carnage que l'ange aurait pu faire à chaque porteur de pacemaker Cardiotex à l'aide d'un simple téléphone portable et d'une antenne. Des dizaines de milliers de personnes. Rien qu'en France, des meurtres à distance sans avoir le moindre rapport avec la victime. Vous la croisez dans la rue, vous appuyez sur votre écran de téléphone portable et c'en est terminé. Une nouvelle forme de terrorisme. Lucie en prenait peu à peu conscience. Avec la numérisation de nos vies, de nos cerveaux et même de nos organes, avec les voitures autonomes, les métros sans chauffeur, les hackers ou cybercriminels risquaient de devenir les Escobar ou les Ben Laden de demain. Cette perspective lui flanquait le vertige. Avant de reprendre la route, elle donna un coup de fil à Robillard.
« C'est moi. Deux choses. Un, il faut que tu récupères des infos sur une entreprise du nom de Cyberspace. C'est un cabinet spécialisé dans l'informatique et le traitement des données médicales. Possible que notre ange ait un rapport avec cette boîte. Et deux, trouve les enregistrements des caméras de surveillance du soir où la victime est morte devant le bastion. Le tueur se trouvait à moins de 30 mètres de là. »